Merci beaucoup.
Donc nous garderons toujours, je crois, en souvenir les saltimbanques, le petit violoniste, les images de tauromachie, de corridor, qui sont magnifiques, et puis cet éloge du corps féminin et celui de la Camargue et des sables de Camargue. Voilà, donc c'est le premier mérite de Lucien Clergue. Le second, tout simple et très simplement, c'est de marquer l'histoire de la photographie. Alors à plusieurs titres par son œuvre, aussi parce qu'il a toujours cherché à valoriser la photographie comme art, il l'a inscrite en tant que telle, de manière autonome, c'est-à-dire indépendamment des arts plastiques et du cinéma au ministère de la Culture. Et puis il a créé, à la fin des années 60, début des années 70, avec l'écrivain Michel Tournier, les rencontres internationales d'Arles, donc, que vous connaissez tous, qui ont toujours un grand succès, qui ont accueilli pléthore de photographes et d'artistes. Alors, Lucien Clergue a d'autres mérites. Il est notamment, il a été premier plusieurs fois dans sa vie, mais au moins deux fois, donc premier académicien photographe. Accueilli à l'Académie des Beaux-Arts et membre donc à ce titre de l'Institut de France. Il restera aussi célèbre pour avoir joué du violon sous la coupole, c'est ça, lors de la séance inaugurale. Et puis il est aussi le premier thésard, le premier docteur en photographie, je crois, en France. Donc il a soutenu une thèse à l'université d'Aix-Marseille avec une introduction de Roland Barthes. Voilà, donc il est premier académicien, premier à fonder les rencontres d'Arles, premier doctorant photographe, et puis je crois aussi que c'est une personne qui a toujours été très ouverte. Il est aussi un grand témoin de son époque. Donc il a connu beaucoup d'écrivains, Saint John Perse, Michel Tournier. Il a connu de grands peintres, de grands artistes peintres et plasticiens, dont Picasso, ce qui n'est pas rien. Il a côtoyé Jean Cocteau, Paul Éluard aussi.
Non, Paul Éluard, je ne l'ai pas connu, il était mort.
Il était mort.
Oui.
Jean Cocteau.
Oui.
Voilà, vous avez côtoyé des musiciens aussi, et vous avez publié plus de 70 livres et portfolios de photographies. Vous avez réalisé des courts-métrages et des moyens-métrages de cinéma. Alors, je voulais juste évoquer, avant de vous laisser la parole quand même, un des livres que vous avez écrit, qui s'intitule « Corps mémorable », qui est devenu un livre mythique. Un corps mémorable, 1957, et qui serait pour nous, généticiens de l'écriture et de la photographie et de l'écriture de lumière, généticiens, c'est-à-dire spécialistes de l'étude des processus de création artistique, qui serait un magnifique exemple. Donc, je résume très rapidement, livre publié en 1957, avec des poèmes de Paul Éluard, précisément, une couverture de Pablo Picasso, réédité en 1960, réédité en 1962, édité en version allemande en 1963, et là, une photographie a été censurée. Une photo censurée. Réédité en 1965, avec des changements de couleurs. Édition remaniée en 1969 avec d'autres photographies, avec une nouvelle maquette, nouvelle édition en 1996 pour fêter le centenaire de Paul Éluard, avec une maquette réalisée par Massin, 2003 encore, cette dernière version est rééditée. Voilà, donc je vous laisse la parole, je vous remercie encore, et puis allez-y, si quelque chose ne va pas, vous nous faites signe.
Je vous en prie. Je vous remercie. Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est un honneur très particulier pour moi de m'exprimer dans cette illustre maison. Moi qui n'ai pas vécu le cursus universitaire, puisque je suis docteur par accident, ayant été sollicité par mon ami Raymond Jean à soutenir une thèse pour être capable d'enseigner la photographie à l'Université de Marseille-Provence, notamment au lieu dit Saint-Charles, près de la gare, la fameuse gare de Marseille. Et donc, c'est pour moi très émouvant d'être parmi vous. Et on m'a demandé de m'exprimer sur cette thèse et sur les sables en particulier. Et je dois avouer que lorsqu'on me demande de résumer mon travail, j'ai envie de dire que le sable est un dénominateur commun, car c'est sur le sable que naît Vénus Aphrodite, que j'ai célébré dans tant d'ouvrages et tant de photos. C'est sur le sable que meurt le taureau qui, en Méditerranée, est considéré comme un dieu. Marie Moron, avec un livre qui s'intitule « Le taureau, ce dieu qui combat ». Et enfin, c'est sur les sables de ces plages méditerranéennes que j'ai lu cette évolution biologique de la Terre qui m'a conduit à faire cette étrange thèse qui n'est pas écrite. Car lorsque Raymond Jean est venu me dire de présenter une thèse, je lui ai dit « Écoute, je ne peux pas, je n'ai pas le bac. » Non, mais il me dit « Tu es connu, tu as fait une œuvre, ce sera une thèse sur dossier. » Je lui dis non. Je lui dis « Raymond, il faut être honnête, je n'ai pas passé le bac, donc je sais tout juste lire et écrire, mais je sais m'exprimer avec la photographie. » Et je pense que la photographie peut exprimer des choses précisément, donc il faut le faire. Non, mais il me dit « Tu rêves, ce n'est pas possible, l'université ne l'acceptera pas. » Et je lui dis « Pourquoi il n'y aurait pas quelqu'un au sommet de l'université qui aurait peut-être des envies ?» Mais il me dit « Tu penses à qui ?» Ben, je pense qu'au-dessus de tout, il y a le Collège de France et qu'il y a là un monsieur qui s'appelle Roland Barthes. Il me dit « Tu le connais ?» Non, non, je lui dis « Je ne le connais pas, mais j'ai lu ses écrits, je pense qu'il peut s'engager. Ben, » Il me dit « On va y aller. » Donc ils sont allés à 3 professeurs de l'Université de Marseille-Provence. Et Roland Barthes leur a dit « Non seulement je vous dis de le faire, mais je vous prie de m'inviter à faire partie du jury. » Voilà, donc je vais essayer de vous présenter la saga des sables. Je vous rappelle que je suis né dans Arles, qui est une ville au sud de la France, au bas du Rhône, et que déjà le Rhône est chargé de sable, que ce Rhône conduit à la mer, que c'est à peu près un peu en amont d'Arles que le Rhône se divise en deux, le Grand Rhône et le Petit Rhône, et crée ce delta de la Camargue, qui est lui aussi un lieu mythique pour des tas de raisons, mais aussi par l'histoire, par la poésie, la littérature qui l'entoure. Alors, je vais démarrer ainsi avec les photos et vous les commenter. Et j'espère que tout le monde m'entend de manière satisfaisante. Voilà, alors j'espère que ça va marcher, je ne suis pas très doué en... voilà, donc la mer. Voilà, la mer est donc porteuse de ces sables qu'elle ressasse et remue constamment. Ma mère est née à 2 pas de la mer, tout près du Salin de Giraud, qui est le village du Sel en Camargue. Et elle était également entourée de taureaux, les taureaux sauvages qui vivaient à l'époque sans barrière et sans protection. Et d'ailleurs, mon père me racontait, lorsqu'il était enfant, qu'il ne, parfois, lorsqu'il descendait de sa chambre pour aller à l'école, il remontait à 4 pas en courant parce qu'il y avait des taureaux qui mangeaient dans les poubelles. Donc, toute mon enfance a été bercée d'histoires de taureaux et du delta de Camargue. Alors, attendez, j'essaie d'appuyer comme il faut. Je sais pas. Voilà. Et donc, voilà la plage. Dans sa vastitude, dans cette plage entre Sainte-Marie-de-la-Mer et Salins-de-Giraud, il y a à peu près 40 km de plage. C'est un bonheur absolu, évidemment, qui est très protégé, enfin plus ou moins. Mais j'y suis allé dès que j'ai pu. La photographie m'a permis d'interroger ces sables, d'en faire des images comme celles que vous voyez là. Il y a donc aussi cette espèce de bestiaire des sables que sont les arbres morts rejetés à l'équinoxe en général, c'est-à-dire les bois échoués sur le Rhône qui sont rejetés dans la mer et ensuite repris au moment de l'équinoxe et renvoyés sur la plage, et qui sont évidemment une source de poésie et d'imagination. Et ça a été très vite un domaine qui m'a touché. Pour dire la vérité, c'est en 1956 que tout s'est décidé. C'est en 1956 que j'ai fait les premiers cadavres d'animaux, et c'est la même année que j'ai fait les premières femmes nues sur la plage. Alors, lorsqu'effectivement Raymond Jean m'a demandé de soutenir cette thèse, je me suis trouvé devant un problème d'une stupidité qui va tous vous faire sourire, mais je me demandais d'où venaient les sables. Alors j'ai appelé le prof de sciences nat qui était à Arles, et je lui ai dit, écoute, excuse-moi, mais il était adjoint au maire d'Arles. Je lui ai dit, j'ai un problème vraiment ridicule, d'où viennent les sables? Enfin, il me dit, Lucien, des rochers. Ah ben oui, tu as raison, c'est des rochers. Bon, alors voilà. Vous êtes là devant les rochers de Pointe-Lobos. Pour ceux qui connaissent la photographie, qui connaissent en particulier l'œuvre d'Edward Weston, Ansel Adams, Imogen Cunningham, le Wynne Bullock, on sait que Pointe-Lobos est le haut lieu, l'Olympe de la photographie et des photographes. Et notamment, Edward Weston a exprimé là des choses extraordinaires qui ont bouleversé totalement l'histoire de la photographie. Donc je suis allé sur ces lieux au début des années 70 pour aller en pèlerinage sur le lieu où Weston a travaillé, avec comme guide Wynne Bullock, qui m'a montré les rochers photographiés par Edward Weston. Et voilà ce que j'ai vu, entre autres, dans ces rochers. Alors, je ne vous montre pas la série entière du Langage des Sables, où il y a 73 photographies. J'ai fait une sélection qui permet de vous donner une idée du déroulement de la chose. Bien entendu, ce n'est pas le reflet de la soutenance, parce qu'au cours de la soutenance, je n'ai presque pas parlé, puisque c'était les images qui parlaient. Mais là, je pense qu'il est bon de vous faire des commentaires plus précis sur les lieux, sur un tas de choses. Et ce qui m'avait frappé dans ces rochers de Pointe-Lobos, je vous rappelle que Pointe-Lobos, pour la petite histoire, c'est aussi une très grande histoire que vous avez tous lue, bien entendu, parce que c'est là que Stevenson situe l'île au trésor. Et lorsque vous allez à Pointe-Lobos, vous voyez les noms inscrits, China Groove, et qui sont dans l'île au trésor, donc c'est un lieu absolument magique. Et moi, j'ai vu des choses sur ce lieu que Ansel Adams et Weston n'avaient pas vu. Car Weston photographiait un rocher pour le rocher. Il ne signifiait rien. Alors que moi, avec mon tempérament de méditerranéen, j'y voyais autre chose. Par exemple, ce rocher, pour moi, c'est la table de Luxure. Il y a là un sexe de femme, peut-être un sexe d'homme, etc. Toutes ces choses qui se retrouvent là. Pourquoi ? Alors, ça sera l'objet d'un autre ouvrage. Ce serait trop long d'en parler ce soir. C'est un livre qui s'appelle, en anglais, Footprint of the God, Empreinte des dieux, qui reprend d'ailleurs une expression de Roland Barthes lorsqu'il a prononcé l'antithèse. Et nous allons passer tout de suite au sable. Alors, vous voyez, le côté cosmique est la chose qui me trouble le plus. Moi, je vois dans les sables, dans ces plages, une espèce de miroir des galaxies du cosmos. Voilà, cette comète qui s'est échouée sur la plage. Voilà donc ces sables du début du monde. Car au fond, je suis le plus vieux photographe de l'histoire, puisque j'étais témoin, n'est-ce pas, des débuts. Tout ça est très prétentieux. Alors, voilà ces images-là. Certaines ont été faites en Méditerranée et d'autres, comme celle-là, sur une plage espagnole. Donc, nous sommes tout à fait au début de l'histoire. Les vents soufflent, comme vous le savez, très fort, créent ce genre de sculpture éphémère. Ça ne va pas durer longtemps. Dès qu'elle sera sèche, tout va s'écrouler et tout recommencer. Les plages se mettent à jouer à autre chose. Alors là apparaissent déjà les influences que j'ai subies. J'avais une certaine fascination à l'époque pour Max Ernst et ses grandes forêts d'une part, et aussi une série qui est difficile à définir, mais qui s'appelle Jardin Gobavion. Nous en parlerons plus tard à propos des flamants morts. Et pour la petite histoire aussi, Max Ernst a été mon premier collectionneur. C'est lui qui a acheté les premières photos. Alors, donc, voilà ces plages, ce sable dessiné par la nature, par la mer. Pardon. Alors, attendez, ça va trop vite. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. On va revenir. Non. Ça, qu'est-ce qui se passe là? Je ne peux pas revenir en arrière. Où est le technicien?
Voilà, je suis là.
C'est là?
Vous avez des petites flèches là pour revenir.
Oui,
derrière.
Mais non, c'est par là que ça se passe. Ah, on avait. Attendez, j'ai fait une faute. Voilà, je sais ce que j'ai fait. Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas un homme de technique. Alors, nous continuons avec les premières herbes qui surgissent, qui tracent des dessins comme un architecte. Alors là, l'espèce d'horloge du temps. C'est le mistral, naturellement, qui agite ces herbes et qui crée ces traces. On dirait des dessins d'architectes, on dirait que quelqu'un essaie de faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment l'horloge du temps. Voilà, ça, c'est pour moi le signe même de cette évolution plastique sur les sables. Puis il y a les messages qui arrivent d'Afrique et qu'on peut lire. C'est une très belle calligraphie. Il y a même des ornements qui pourraient convenir à une dame. Voilà, d'autres messages assez mystérieux. Et alors là, ça ne veut plus avancer. Voilà, si, pardon. Voilà. Donc, un insecte qui trace son chemin. Nous avançons, vous voyez, les insectes repoussent le sable et créent des figures. Alors, c'est notre inconscient collectif, c'est notre mémoire qui rejoint l'inconscient collectif de ces insectes. Bref, ce sont beaucoup de questions qu'on pourrait se poser. Les oiseaux apparaissent. Pardon. Voilà, voilà, le cheval, non, alors ça va aller trop vite. Le cheval qui est venu avec, peut-être avec l'homme d'ailleurs, et puis l'homme apparaît. Alors, lorsque l'homme apparaît, c'est assez étrange pour moi, parce que sur son talon, il inscrit son propre visage, les yeux, le nez, la bouche, bon, pourquoi, mystère aussi. Il vient avec son chien. Il est même très ludique, c'est peut-être un danseur qui s'amuse là sur la plage. Il flotte à nouveau dans le cosmos. Vous voyez, il est prisonnier ou en accord avec ce cosmos. Et son empreinte est partout, se mêle déjà aux traces de la voiture. La voiture qui est d'ailleurs un peu musicale, on dirait le Bécard de la composition musicale. Et puis avec son chien, avec son vélo, avec ses souliers, il s'inscrit sur cette plage. Là, vraiment, là, la pollution commence puisqu'il amène sa voiture, qu'il circule sur un lieu où il ne devrait pas circuler. Et voilà, au fond, ça, c'est les deux extrêmes. Ce sable d'il y a des millions ou milliards d'années et la voiture d'aujourd'hui. Alors ça, c'est une empreinte d'un gros engin qui travaille sur les sables, puisque je vous ai dit, c'est là qu'on récolte le sel, donc les salins du Midi font constamment des travaux près de ces plages. Et je me suis toujours demandé si dans 50 ou 100 ans, quand il n'y aura plus de voitures automobiles, qu'il y aura Dieu sait quoi, on se posera des questions. Est-ce que c'est un relief abyssinien? Est-ce que c'est... Enfin bref, tout ça est rempli de questions pour le futur. Ça évoque un tapis indien. Et puis, le rosebud de l'homme, enfin, il a... Et on retrouve sa petite voiture, le petit jouet de l'enfance. la bouteille de lait qu'il a nourri dans, quand il était petit, la bouteille pour les huiles parfumées des dames qui seront bientôt dans le musée du XXe siècle. Et puis il a l'air d'être prisonnier de sa propre voiture. Les choses s'aggravent. Là, c'est la statue de l'empereur. Enfin, c'est le Jules César de l'an 2000, déjà rongé par le pétrole. Et puis, est née à un moment donné la culture sous plastique, notamment des vignes. Et moi, ça m'a beaucoup frappé parce que on avait l'air d'enterrer la terre. Et malgré tout, il y a un petit espoir, il y a un petit bout de vigne là qui surgit. Et la dernière image, c'est ce... comment on appelle déjà le scarecrow, l'épouvantail à moineaux. Mais il y en a qui ont vu l'arbre de la... le linge blanc de la reddition. D'autres qui ont vu le symbole du voile de mariée. Bref, c'est tout simplement l'homme qui met cet épouvantail à moineaux pour pouvoir cultiver ses salades plus normalement. Alors vous allez me dire, c'est complètement aberrant votre histoire. Je ne savais pas très bien où j'allais, j'ai fait ce que j'ai pu, mais en attendant, ces messieurs de l'université ont eu l'extrême gentillesse de m'accepter et j'ai continué à explorer ces sables. Alors voilà des variations de ces sables. Je dois dire que en vous montrant ça et en ayant préparé cette présentation, me revenait constamment en mémoire un mot de Fernand Léger qui parlait toujours du fait plastique. Et me revenait également en mémoire cet autre mot célèbre de Jean Cocteau, qui est le second titre de son dernier film, Le Testament d'Orphée, « Ne me demandez pas pourquoi ». Autrement dit... tout ça est libre à votre interprétation et je vous l'offre bien volontiers. Alors, vous voyez, ça continue à me dépasser. Je ne sais pas pourquoi, ça fait des... Bon, c'est la rose des sables, vous voyez, créée par, d'une part, la pollution et d'autre part, des herbes qui ont surgi. Je suis très sensible, moi, à cette organisation de la plage. Comment... l'érosion, les vagues, l'équinoxe, créent un monde qu'il suffit simplement de regarder et d'essayer de lire. Je n'ai rien arrangé, bien entendu. C'est comme ça. Voilà, ça me touche par cette extrême simplicité et cette organisation. C'est ça qui est très troublant. Quelle est cette main inconnue qui organise ce monde graphique sur la plage ? Alors ça, avec des tas de variantes, il peut y avoir un rocher perdu, un arbre mort. Ici, simplement, une plante, là aussi, avec les effets du vent. Ça, c'est dans des dunes un peu plus éloignées de la mer proprement dite, mais pas très loin. Nous sommes toujours en Méditerranée, là. Et à nouveau, dans ces sables, des interprétations. Moi, j'y vois un couple de jumeaux. Pourquoi sont-ils là? Pourquoi ont-ils laissé leurs traces? Ce couple, peut-être, ces pieds croisés, peut-être deux amoureux qui se sont retrouvés là. C'est vrai que vous verrez très peu l'humain. C'est les traces de l'humain et c'est les traces biologiques qui m'ont intéressé. Le voilà au milieu des oiseaux. Ça, c'est à Saint-Malo, auprès de Saint-Malo. C'est en Bretagne, ça. Et ça, c'est très loin, sur l'île d'Antigua, dans les Caraïbes. Je suis fasciné par ces petites choses qui sont rejetées par la mer en permanence. J'ai les reins brisés quand je fais ces photos, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Là, par contre, nous sommes dans le désert. Il y a en Amérique deux déserts qui me fascinent, le désert de la Vallée de la Mort en Californie et le désert de White Sands au Nouveau-Mexique. Le désert de la Vallée de la Mort, inutile de faire des circonvolutions, c'est la Vallée de la Mort. Bon, c'est vraiment d'un tragique effroyable. Et je crois que ça a été fait à White Sands. Pour les jeunes qui sont ici dans cette salle, je rappelle que c'est à White Sands que fut expérimentée la bombe atomique. Autrement dit, c'est un lieu de le plus sinistre de l'histoire, alors que c'est un lieu paradisiaque. Eh bien, voilà ce que l'homme est allé faire. Et moi, j'y vois ses traces. Alors, ce sont des lectures, vous pouvez tout imaginer ce que ça peut dire. Et je le livre encore à votre imagination. Et puis, je suis revenu sur la plage de M. Stevenson, car M. Stevenson était l'amant de Mme Osborne, qui habitait Monterey. Et Monterey est au nord de Point Lobos étant à 1,5 km de distance au sud de Carmel, cette merveilleuse petite ville dont Clint Eastwood fut le maire. Et sur cette plage de Monterey, j'ai vu toutes ces dessins d'algues, et notamment celle-ci, que nous avons choisie il y a 2 ans pour illustrer celui qui allait devenir le prix Nobel l'année dernière, le poète suédois. Et donc, c'est la couverture du petit livre qui est paru au Castor Astral. Voilà. Donc, même en Bretagne, à Saint-Malo, je retrouve ces choses avec les travaux des palourdes et les algues qui s'y mêlent, jusqu'à ce que je retrouve dans ces algues les charognes que j'avais fait sur la plage et que nous allons découvrir tout à l'heure. J'ai été frappé par ça, j'ai été même troublé de voir que 50 ans plus tard, je retrouvais dans une plage du Nord des éléments que j'avais exploités dans leur vérité, ce que j'appelle les charognes, c'est-à-dire des animaux en décomposition. Et en fait, si je devais terminer ma saga du sable proprement dit, voilà ce que j'appelle l'épitaphe des sables. Ça m'a surpris, j'ai été très surpris lorsque je l'ai découvert sur la plage, et je ne lui ai trouvé que ce nom. Je vais vous avouer en confidence quelque chose de pas très drôle, mais bon, c'est comme ça. J'ai demandé à mes filles de répandre mes cendres sur cette plage. Voilà. Alors, l'épitaphe des sables étant déroulée, nous allons... Ah, bon Dieu. Comment je peux... Ah oui, c'est ça, excusez-moi. Voilà. Donc, Madame Sicard vous a évoqué tout à l'heure les saltimbanques. Est-ce que ça va comme ça et c'est audible et ça se passe
pour bien. Moi, c'est parfait.
Bon, très bien.
Les personnes qui sont dans le fond, vous entendez bien?
Merci.
Sinon, vous venez au premier rang.
Alors, Madame a évoqué les saltimbanques qui ont été effectivement ma première préoccupation lorsque j'avais 20 ans. 54-55, j'ai fait 800 photographies de 5 enfants que j'ai déguisés en saltimbanques, inspirés par Parade, par l'époque rose de Picasso, etc. Et ces saltimbanques, je les avais photographiés dans Arles, dans les ruines de guerre d'Arles. Ma maison avait été bombardée, détruite, enfin, c'était une préoccupation majeure pour moi, mais à l'ombre, sans soleil. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous donner d'explication, mais je ne voulais pas de soleil. Or, le Arles est brûlé de soleil, comme vous devez le savoir. Et à la fin de la série des saltimbanques, je ne sais pas pourquoi, je suis allé un jour à la gare. Le parcours vers la gare, lorsqu'on est à Arles, c'est là où Van Gogh a planté son chevalet pour peindre l'admirable tableau d'Arles la nuit, qui est à Orsay. Et en revenant, qu'est-ce que je vois sur la plage du Rhône, sur ce sable du Rhône, ce cadavre de poule inondé de lumière. Et je suis parti en courant chez moi. J'habitais à l'époque de l'autre côté de la ville, cherchais mon appareil, je suis revenu. Et donc, j'ai découvert le soleil sur la mort. Alors ça, d'autres pourront dire pourquoi, mais voilà ce qui s'est passé. À côté de cette poule, plus tard, quelques semaines plus tard, j'ai découvert ce cadavre de chien où il ne restait plus que son crâne. Alors certains y voient aussi peut-être un corps de femme, mais étant donné les côtes que vous voyez en haut de l'image, nous l'avons appelé, mon ami Jean-Marie Magnan, qui m'a beaucoup guidé et aidé, nous l'avons appelé l'ange de la mort. Et alors, curieusement, j'y pensais ce matin, celui qui a acheté ces photographies de l'ange de la mort, c'est James Jones. James Jones, qui a écrit le fameux « From Here to Eternity », qui habitait à l'époque au quai de Bourbon, et que j'ai fréquenté, je ne sais plus trop pourquoi, je ne sais plus qui m'a amené là, enfin bref. Et Jimmy avait eu un drame, c'est qu'il avait bombardé la Corée pendant la guerre. Alors autant vous dire qu'il se saoulait tous les jours pour oublier ce qu'il avait fait. Mais il avait une fascination pour mes charognes, et il a été le premier acquéreur de ces charognes à une époque où personne, évidemment, songeait à acheter ce genre de photographie. Et puis, en 1956, il y a eu cet hiver épouvantable, alors bien plus redoutable que celui que vous avez un peu vécu ces jours-ci. Le thermomètre est passé à Arles de plus 10 à 6 heures du soir. Le lendemain matin, à 6 heures du matin, à moins 26. Et les pauvres Flamands se sont trouvés les pattes prises dans la glace et sont morts par milliers. Et je suis allé les photographier, car je faisais quand même un petit peu pour avoir le droit d'utiliser le mythique appareil Rolleiflex. Je faisais des photos pour le journal local, le Provençal. Et donc, on m'a dit, va photographier les Flamands. Et ces Flamands, donc, je vous ai dit tout à l'heure, ils étaient un peu influencé par Jardin Gobavion de Max Ernst. Et un jour, Cocteau m'a invité à dîner avec Max Ernst et sa femme Dorothée Tenning. Et il m'a dit, écoute, apporte tes photos, on les montrera à Max. Alors, j'ai montré mes photos et Max Ernst me dit, et combien ça coûte ? Et alors, on ne vendait pas de photos à l'époque. On ne savait pas le prix. Mais moi, je savais le prix d'un livre de Max Ernst qui était chez Gibert, boulevard Saint-Michel. Je lui ai dit, écoutez, il y a un livre de vous, ça vaut 150 francs. Alors donnez-moi les 150 francs, j'achète le livre, vous me le signerez. Donc j'ai été superbement payé, puisqu'il m'a fait un très beau dessin sur le livre plus tard. Et donc j'ai cet honneur, et il m'a vraiment, il m'a beaucoup touché, quoi. C'était un être merveilleux. Et voilà, donc vous voyez ces Flamands qui ont également inspiré, alors par contre, de l'autre côté, qui ont inspiré Jean Cocteau. Si vous allez à Menton, si par hasard, jeunes gens, vous vous mariez à la mairie de Menton, elle est décorée par Jean Cocteau, et vous verrez au pied d'Orphée un Flamand mort, qui est donc celui dont vous venez de voir les images. Alors évidemment, un poisson mort, c'était pas marrant, hein. C'était tellement pas marrant que les copains ne venaient plus me voir. Je restais un peu seul dans mon grand atelier. Et alors, vous verrez après comment j'ai fait pour faire revenir les copains à l'atelier, mais c'est un suspense. Et vous voyez, il y a pire, quoi, parce que ce petit cadavre de chat, c'est vraiment c'est effrayant. Quoi. Moi, je me demande comment j'ai pu faire ça. Et là où c'est encore plus paradoxal, c'est que je faisais ça, je me souviens très bien le jour où je l'ai fait, pendant que la jeune fille qui avait posé nue se faisait dorer au soleil. Alors, comme elle demandait un peu de temps de pause, et comme moi je ne sais pas me reposer, que je ne peux pas rester sans rien faire, paf, la mère m'a apporté ce cadavre et je l'ai photographié. Ça s'appelle l'ensablement. Et vous voyez, j'ai même fait avec le Polaroid des compositions comme ça, un peu plus étranges. Enfin, ça a été fait en Italie, je crois, ça. Voilà. J'ai très peu mis de couleur. Je suis resté... La couleur apparaîtra à la fin pour une raison particulière. Et nous allons passer sur le sable de l'arène. Je rappelle également qu'en espagnol, arena signifie sable. Donc l'arène, c'est le sable, hein. C'est le lieu absolu. Et j'habitais tout près des arènes lorsque j'étais petit, puis ma maison a été bombardée, je suis parti plus loin, je suis revenu près des arènes. Et quand nous étions petits, 6, 7, 8 ans, nous on resquillait à travers les grilles pour passer bien souvent une partie de la nuit dans ces arènes, enfin dans les arènes d'Arles, ça ce sont les arènes de Nîmes, pour respirer l'odeur des taureaux qui attendaient la mort et méditer, faire des dessins pour les copains peintres. Alors, vous me permettrez de mettre l'empereur des sables, l'empereur de tout, le dieu absolu pour moi, Pablo Picasso, sur la plage de Cannes. Simplement, c'est pour lui rendre hommage, parce que si je suis ici ce soir, c'est grâce à lui, car il m'a sauvé la vie. Il m'a dit au cours d'un dîner... tu es malade, va voir le docteur. Je lui dis non, je me sens très bien. Non, non, tu es malade, va voir le docteur. Le lendemain, on m'opérait et le soir, le docteur m'a dit c'était une question d'heure. Donc, merci à Picasso. Et vous le voyez, et c'est vraiment... Alors, il a la main comme un empereur et la main gauche toujours avec la cigarette. Et voilà ce qu'est la corrida. Donc, je comprenais fort bien que certains d'entre vous soient hostiles et réprouvent ce genre d'activité. Mais la Méditerranée, c'est ainsi. L'Espagne, le Portugal et le sud de la France pratiquent le jeu taurin. Je vous rappelle même, certains ne le savent pas et ne peuvent pas l'imaginer, mais au 19e, il y avait 3 arènes en fonction à Paris où on tuait le taureau. Donc, parce que l'impératrice étant espagnole, n'est-ce pas, il fallait l'honorer d'un spectacle qu'elle devait particulièrement aimer. Alors, la corrida obéit à des rites très particuliers, mais encore une fois, le sable est le support de ça, le support de ce que va faire l'homme et du parcours du taureau. Et là, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Le taureau sort par une porte qui s'appelle le toril pour entrer sur cette arène, donc sur ce sable. Et certains toreros particulièrement courageux et un peu fous se mettent devant cette porte du toril sans savoir ce qui va surgir et reçoivent le taureau. Et voilà, vous voyez, là, ça se passe bien. Mais certains y ont perdu un œil, y ont perdu la vie, la corne traversant la carotide, etc. Enfin, je vous passe. Je déteste ce genre de passe parce que ça finit très souvent très mal. Voilà. Il fait face à ce genre d'animal. C'est un monstre qui pèse 500 à 600 kilos et qui n'est pas là pour vous faire des cadeaux. Et qui a 2 cornes, croyez-moi, qui font très mal. Mais vous voyez, sur ce sable, ça peut être très élégant. Le torero, tout d'un coup, devient comme un danseur. Le taureau a une forme, c'est absolument extraordinaire. Quoi. On dirait que c'est fait pour être dessiné, pour être représenté. Ça, c'est le jeu de la cape qui précède celui de la muleta, que vous voyez ici, qui est tenu à une seule main. Ici, le torero est un torero français qui est actuellement un des 3 plus grands toreros dans le monde. Il s'appelle Sébastien Castella. Il est de Béziers. Ça, c'était Antonio Ordóñez, qui fut un des plus grands toreros des années 50, qui est mort maintenant. Et ça, c'est le fameux El Cordobés, qui a marqué beaucoup les années 50-60, qui vit toujours. Nous avons le même âge, je crois. Il a eu 5 enfants, dont un est un peu torero. Malheureusement, il n'a pas assez faim pour avoir le courage de faire ce que son père a fait dans des conditions épouvantables. Et vous le voyez là, aux arènes de Nîmes, à genoux devant le taureau, et je puis vous dire ce qu'il est en train de lui dire. Il lui dit « Je vais finir par te manger tout cru ». Alors, rendez compte. Voilà, vu par-dessous, je plaçais ma caméra sous la barricade, et je recevais du sable plein la figure, plein l'appareil. Et c'est le torero Nimeño Segundo qui est en train de torer. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Le voilà. Voilà Nimeño plaçant les banderilles dans une condition qui paraît miraculeuse. Ça marche. Le taureau ne le prend pas. Et c'est d'une élégance inouïe. Malheureusement, en 1989, aux arènes d'Arles, est sorti un taureau de la fameuse race de Miura, qui avait une envergure de 102 cm, et le taureau l'a pris. Il a été mort clinique 2 fois, tétraplégique, il a fait la rééducation, qui ne l'a pas satisfait, et 2 ans après l'accident, il s'est pendu pour terminer le travail du taureau. Et celui-ci s'appelait Paquiri. Paquiri était un taureur extraordinaire, d'une vaillance et d'une élégance, d'une gentillesse, un taureur andalou. Et vous le voyez là, établissant un dialogue avec le taureau. Remarquez les cils de ce taureau, c'est tellement féminin. Et quelques années plus tard, dans les arènes de Pozoblanco, le taureau l'a pris et 1 heure après, il était mort. Voilà, les toreros peuvent souffrir beaucoup. Et là, vous voyez combien c'est dangereux. Enfin, cette corne a l'air de viser le cœur de ce torero qui s'appelle Raúl Aranda. Et alors là, je vous montre une image qui est rarissime. Comme vous pouvez le remarquer, le torero n'a rien dans les mains. Il va faire l'acte de tuer le taureau. Pourquoi ? Ce taureau s'étant comporté d'une manière tellement exceptionnelle, le public, le torero et le président ont demandé sa grâce. On ne tue pas le taureau. Mais on sait que l'heure de vérité, l'instant de vérité pour le torero, c'est le moment où il va mettre à mort. Parce que là, lui, il a une épée, mais le taureau a deux cornes. Ils doivent se rencontrer et éviter ces cornes. Et souvent, Manolete, par exemple, était tué au moment de la mise à mort. Et donc, il faut qu'il prenne le risque, qu'il joue le jeu jusqu'au bout. Donc, il abandonne l'épée et il fait le même geste de tuer le taureau en prenant le risque de se faire prendre. Et il n'a pas été pris. Tout le monde s'en est bien sorti. Et vous voyez, parfois, ben voilà, le torero est pris, il voltige. Parfois, ça ne se passe pas trop mal. Et, ma foi, il y a plus de pleurs que de mal, mais il y a des accidents terribles. Et lorsque j'ai commencé à faire des photos de corrida, je me suis intéressé surtout à la mort du taureau. Pourquoi ? Parce que cette idée de ce livre de Marie Moron, que j'ai connu, qui habitait Saint-Rémy-de-Provence, Le taureau, ce dieu qui combat, moi, ça me semblait étrange quand même. Lorsque le taureau mourait, les gens s'y intéressaient plus, s'intéressaient au torero. Et moi, je pensais que ce taureau était digne d'intérêt. Vous le voyez, là, au moment de l'agonie, il vient de recevoir l'épée, il va sans doute bientôt s'écrouler. Voilà les arènes d'Arles, qui sont caractéristiques par ces tours sarrasines et qui le couronnent. Il y a trois tours. Et lorsque vous verrez des dessins de Picasso, vous verrez des tours, vous saurez que ce sont les arènes d'Arles. Il y a même des moments particuliers. Le torero, là, n'est pas habillé de lumière. Il est comme un officiant parce qu'un de ses collègues a été tué par un taureau. Et à plusieurs, ils se sont concertés pour offrir une corrida à sa veuve et à ses enfants. Donc le cachet qu'ils auraient dû recevoir a été versé à la famille. Et ils portent le costume de deuil. Et voilà, le taureau donc s'écroule au milieu de l'arène et il va se fondre pratiquement avec les sables. Alors, j'ai vu aussi dans la corrida cet aspect assez mystérieux des jeux d'ombre, car nous sommes quand même au soleil. Vous allez dire que j'exagère, parce que les corridas maintenant commencent tard. En Espagne, elles ont toujours commencé tard, mais en Provence, elles ont commencé jadis à 4 heures l'après-midi. Et l'un des spectateurs les plus assidus était Picasso, qui était assis au premier rang, et qui a donc vu ces ombres que marquait le soleil, et qui en a fait une série qui s'appelle Tauromaquia, qui n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais que je vous signale le cas échéant. Voilà ces ombres mystérieuses de cet animal. L'entrée du picador. Et vous voyez combien le sable recueille ces signes. Et alors, ce n'est pas pour rien que je vous les montre. Parce que lorsque j'étais petit, dans cette maison qui a été bombardée, notre chambre était au premier étage. Et lorsque j'étais allongé dans mon lit le matin, je voyais danser sur le plafond les gens qui passaient dans la rue, dans le soleil. Ça faisait un reflet, etc. Et je pense que ma vocation photographique est née de cette vision-là. Et donc, je la retrouve après dans l'arène sur les sables. Voilà l'entrée de toujours du picador. Toujours le picador. Voilà, il va tuer le taureau. Et cette image, moi, je l'appelle les ombres de la mort. Et elles vont me servir de transition pour la vie. Voilà, donc l'explication par laquelle j'ai pu faire revenir les amis à l'atelier. Je me suis dit, bon, les charognes, ce n'est pas pour eux, mais si je photographie une belle fille, ils viendront les voir. Et effectivement, ils sont revenus. Alors, Voilà donc cette jeune femme qui pose sur la plage. Nous sommes toujours sur le sable. Vous voyez ce sable porteur de vie et de mort. Et d'ailleurs, c'est assez bouleversant de le dire, mais cette jeune femme qui pose là, Carole, est morte 2 ans plus tard, à 20 ans, d'un accident de voiture. Car c'est étrange, cette fille a été... Son père était commandant de vaisseau pendant la guerre. Il a été torpillé, il a fait évacuer tous ses marins, et c'était encore la grande époque où on restait en haut du navire et on était noyé avec son bâtiment. Et elle a voulu venger son père en faisant un métier dangereux, pilote de rallye. Eh bien, elle en est morte. Voilà. Alors, hommage à Carole. Vous voyez que la mort est jamais loin avec moi dans mon travail, malheureusement. Et j'ai fait donc ces premières photographies, cette fameuse année de 1956, de la mort des Flamands, avec une jeune femme qui est de Lyon, qui était en vacances à Arles. Et ce sont les photos qui illustrent le corps mémorable dont vous avez parlé tout à l'heure. Et qui, évidemment, ont été pas faites intentionnellement. Moi, je voulais faire des nus. Alors, je ne sais plus, c'est à Londres, l'autre jour, que j'ai raconté cette petite histoire qui a fait rigoler l'auditoire. Lorsque j'ai voulu faire des nus, je suis allé au bordel. Et j'ai demandé à une prostituée, je lui ai dit, voilà, écoute, je voudrais faire des nus, est-ce que tu serais d'accord de poser pour moi? Elle m'a répondu, mais pour qui tu me prends? Alors, heureusement, une jeune amie a bien voulu accepter de poser. Mais j'ajoute encore, mais pour les dames qui sont là, c'est absolument abominable. J'avais une petite amie. Nous avions un moment très agréable ensemble, au rez-de-chaussée de ma maison. Quand un copain est venu frapper la porte, il m'a dit, Lucien, il y a un chat mort au bord du Rhône, tu devrais aller le photographier. Eh bien, j'ai perdu la fille. Je ne l'ai plus jamais retrouvée. Et voilà, j'ai fait le chat mort. Mais quand même, je le regrette. Elle était jolie. Alors voilà, les nus dans la mer, les nus sur la plage. Donc j'ai insisté sur le côté plage, le côté sable. Je n'aime pas les nus dans le studio, avec un projecteur, des flashs. Je crois que ce n'est pas la vérité, ça. Moi, je crois que la femme, d'abord, elle se sent tellement bien sur la plage, se sent tellement bien dans la mer, et encore mieux lorsqu'elle peut quitter son maillot de bain. Il faut lui faire plaisir, quoi. Il faut que ça se passe bien. Alors, évidemment... messieurs, vous allez être surpris de voir combien elles sont touffues. Mais ça, nous sommes en 1962. À cette époque-là, on ne s'épilait pas. Voilà. Et je le regrette beaucoup parce que moi, j'aime bien qu'elles ne s'épilent pas. Alors aujourd'hui, quand je vais à New York en particulier, je demande qu'elles ne soient pas épilées. Vous voyez que c'est un... Et ces photographies illustrent... des extraits du grand poème de Saint John Perse, Amer, pour lequel il a été couronné du prix Nobel de littérature. Et je lui ai demandé la permission de prendre des extraits, notamment du cœur de l'ouvrage qui débute par « Étroits sont les vaisseaux ». Et le livre, en fait, s'appelle « Genèse », titre donné par le poète lui-même. Et cette photographie y figure et elle évoque le bouclier... etc. Enfin, il faut lire le poème, c'est un des plus grands poèmes de la littérature française. Voilà ces belles femmes pour lesquelles Picasso et Cocteau ont manifesté un enthousiasme extraordinaire. Et j'avais cette chance que Cocteau était le scribe. J'envoyais mes photos chez Picasso, chez Cocteau, et puis je recevais quelques jours plus tard une lettre de Cocteau, alors la plus belle étant... nous avons hier regardé vos photos avec Picasso. Ensemble, nous avons trouvé merveilleuses. Picasso admire votre série Ventre. Alors, il ne disait pas nu, il disait ventre, le ventre de la femme. On pourrait, dit-il, signer Renoir. Alors, vous rendez compte, à 22 ans, le roi n'était pas mon cousin. Voilà toujours ces belles dames sur la plage, sur la dune. Voilà, sur ces dunes. Et avec ce jeu, c'est moi, n'est-ce pas, de la plage. Alors, ce qu'il y a de curieux dans la connivence avec Saint John Perse, je n'avais pas lu le poème de Saint John Perse. C'est mon ami Jean-Maurice Rouquette, conservateur des musées d'Arles, avec lequel nous avons fait, avec Tournier, les rencontres de la photo, qui me l'a offert. Il m'a dit, écoute, il y a un truc qui n'est pas possible, on dirait que vous vous êtes connus, que vous vous êtes inspirés l'un de l'autre, et je t'offre ce poème. Et effectivement, dès que j'ai eu ce poème, j'ai eu envie de l'illustrer. Et en 65, après la mort de Cocteau, car il eût été inconvenant de fréquenter les deux qui se haïssaient, comme tous les poètes ou les écrivains ou les peintres peuvent se haïr entre eux, et Saint John Perse a été absolument adorable et m'a permis, alors que tout le monde m'avait mis en garde, m'avait dit « Jamais il n'acceptera que tu prennes un extrait de son poème. » Et il l'a accepté. Voilà, donc vous voyez ce rapport subtil des sables et de la femme. Car moi, je trouve dans les sables, et pas alors les sables de la plage, bien sûr, mais les sables du désert aussi, les déserts américains. Je n'ai pas fréquenté les déserts africains, mais je trouve la douceur féminine. Il n'y a rien de dur, et c'est cela qui me touche beaucoup. Ça, c'est toujours sur une dune de Camargue, c'est pas vieux, ça a 2 ans, avec le passage d'un oiseau, comme vous voyez, cet accord profond de la nature. Et puis parfois, ça peut être bizarre avec ces rejets au moment de l'équinoxe, de ce que rejette la mer, la pollution de la mer, mais la femme est là quand même au-dessus pour symboliser l'absolu. C'est aussi un jeu subtil de jouer avec ces lignes de lumière qui ont l'air de partir du corps de la femme, que la femme disperse cette lumière ou qu'elle l'atteigne. C'est un éclair qui la foudroie. Et là, en voilà deux, inondés de lumière, inondés de vagues, et toujours sur le sable, le soir, au moment où bientôt le soleil va se coucher, le sable est noir, et elles sont resplendissantes. Et il y a ces jeux de lumière qui sont absolument magnifiques. Et que voulez-vous ? Moi, je suis ébloui en permanence par cela. Alors, nous étions jusqu'à présent en Méditerranée. Là, nous allons à nouveau dans les Caraïbes, Antigua, avec une jeune femme qui est en fait colombienne, Natalia. Ici, nous sommes à Abidjan, sur la plage d'Abidjan. C'était un travail qui m'avait été commandé par le gouvernement d'Abidjan pour le festival de Lagos. Ce sont des photos que je vais exposer bientôt à Angoulême, où on va célébrer l'Afrique. Et là, nous sommes à nouveau dans ce désert de White Sands. Et vous comprenez que cette idée de la mort absolue répandue dans ces déserts m'ont convaincu d'y amener la vie. Et c'est une jeune noire qui pose pour moi, Vicky, qui venait de Los Angeles. Et j'ai eu pour habitude de dire, chaque fois que je photographie un nu, je fais reculer les frontières de la mort. Là, elle est dans le désert de la vallée de la mort. Là, nous sommes à nouveau à White Sands avec une blanche. Et vous voyez, je retrouve tous ces dessins du sable que j'avais découvert avant et que je remets avec elle. Et alors, je vous ai parlé de cette bombe atomique. Tout le monde a en mémoire cette fameuse photographie extraordinaire de Hiroshima où on voit une échelle, et où l'ombre de l'échelle, je crois, sur le mur, imprimée par la déflagration atomique. Alors donc, vous voyez cette ombre du bras, c'est pour moi l'évocation de ce désastre. Là, c'est sur la plage de Monterrey, à nouveau, la jeune noire inondée de sable. Et là, nous sommes dans le Nevada, enfin, la fin de la vallée de la mort. Et là, voilà la jeune noire, donc, dans la vallée de la mort. Alors, je me suis beaucoup intéressé à la couleur, mais je n'ai pas voulu compliquer les choses. Je l'ai mis simplement à la fin, et vous allez comprendre mieux pourquoi. Voilà toujours cette idée des ombres de la bombe atomique. Alors j'ai fait dans ce désert de White Sands une série avec cette danseuse Joanna Haygood qui dirigeait une compagnie à San Francisco, Zacco Dance Company, que j'ai engagée à l'époque où je faisais aussi le festival de danse et de musique. Et voilà, elle pose pour moi une espèce de... Alors, ce qui m'amusait, ce qui m'intéressait dans cette aventure, c'était qu'il y avait l'immobilité du buisson et elle qui s'animait autour. Et alors, cette dernière image, je dois vous raconter l'histoire. J'ai fait beaucoup de workshops, d'ateliers, de photos de nu. Et un jour, je dirigeais un stage à Arles pour les rencontres. Et il y avait parmi les élèves une jeune femme qui venait de Castres, ou de Mazamet plutôt. Et elle m'a raconté pourquoi elle était là. Elle m'a dit « Je suis infirmière de jour, j'ai eu un terrible accident de voiture et je devais mourir. » Et à l'hôpital, les collègues docteurs se relayer au pied de mon lit et feuilleter ton livre « Né de la vague » et me disait « Regarde ces filles, regarde-les bien, tu seras comme elles. » Je vous dis ça et j'ai l'air, mon Dieu, parce que c'était bouleversant. Et « Reste avec nous, on se bat pour toi, mais il faut que tu te battes avec nous. » Et elle leur a dit « Eh bien, si je survis, je prendrai un stage avec Lucien Clergue. » Et donc, elle est arrivée. Alors, je lui ai dit, écoutez, vous allez poser nu pour moi, cette fois. Mais elle m'a dit, je ne peux pas. Mais pourquoi ? Ben, elle me dit, vous savez, l'accident que j'ai eu, j'ai des marques, j'ai des cicatrices. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, sur la plage, avec le soleil, on ne verra rien. Et donc, nous sommes allés sur la plage. Avec tous les élèves, tout le monde s'est mis à poil, tout le monde faisait des photos de... Et puis j'ai fait les photos d'elle. Et puis le soir, je suis quand même passé à minuit au labo pour voir si tout s'était bien passé. Non. Un assistant avait mal développé les films, dont les films de la petite, parce que j'avais fait les photos avec sa caméra. Je lui ai dit, ces photos sont pour vous. Si vous ne voulez pas qu'on les voit, elles sont à vous. Bon. Je dis, écoutez, là, vous ne me faites pas un cadeau. La pauvre petite, demain, ça va. Alors, le lendemain matin, j'arrive, elle était en larmes, évidemment. Je dis, écoutez, on vous donne des films gratuits, on vous donnera un modèle pour vous, mais je vais recommencer à vous photographier avec le Polaroid et vous les verrez tout de suite, les photos. Et donc, nous y sommes allés, nous avons fait cette composition que j'ai intitulée... comment j'ai intitulé ça ? Sa blessure est terrible, mais son âme est légère. Je crois quelque chose comme ça. Et alors, un jour plus tard, elle m'a demandé de venir faire une conférence à Mazamet. Et à la fin de la conférence, j'ai mis cette photo. Et j'ai dit, mesdames, messieurs, peut-être certains reconnaîtront une jeune personne qui est dans l'assistance. Et quand la lumière est revenue, elle est venue me chercher, m'a pris par la main, m'a dit, je vais te présenter quelqu'un. Il y avait au fond de la salle un monsieur qui avait les yeux rougis. Elle m'a dit, je te présente le chirurgien qui m'a sauvé la vie. Et cet homme était bouleversé. Il m'a dit, monsieur, je veux une copie de cette photo parce que moi, je peux vous dire qu'elle allait mourir. Et nous l'avons sauvée. Voilà. Vous voyez comment la photo, des fois, ça peut faire des petits miracles. Et je suis content d'avoir pu partager ces moments avec vous. Et naturellement, je pense que je suis ouvert aux questions s'il y en a à me poser. Je vous remercie.
Merci infiniment. Bon. Pierre-Marc.
j'ai envie de vous poser une question très, très particulière, mais parce que je suis en train de travailler sur ce problème en histoire de l'art. Comment vous intitulez vos œuvres? Quel est votre rapport au titre? C'est-à-dire, est-ce que dans le travail de composition, le cadrage, et même la décision d'aller photographier ici ou là, avec tel ou tel modèle, est-ce qu'il y a du titre ou du texte ou du mot qui passe? Ou est-ce que le titre, quelque chose qui vient après, comme une chose qui viendrait s'ajouter à l'œuvre finie? Comment vous mettez des mots avec vos images?
Bon, je vais essayer de vous répondre. D'abord, dans un premier temps, j'ai eu comme conscience, je l'appelais ma conscience, l'écrivain dont je vous ai parlé tout à l'heure, Jean-Marie Magnan, qui a 4 ans de plus que moi, qui lui a fait des études universitaires, et qui, lorsque je développais mes films, venait dans la chambre noire et me résumait ses lectures. Donc je n'avais pas à lire Jean-Paul Sartre, ni Genet, ni Cocteau. Il me résumait La Nausée, il me résumait Cocteau. Enfin bref, c'était, je l'appelais ma conscience. Et lorsqu'il fallait trouver des titres, c'est lui qui les trouvait. Donc les titres du début, l'ensablement, l'ange que je vous ai dit du chien là, d'autres trucs comme le cimetière de campagne, je ne sais pas. Ce sont des titres bon qui peut-être sont un peu littéraires. Moi, ça me choquait un peu, pour ne rien vous cacher. Moi, j'en étais resté à Picasso, qui ne donnait jamais de titre à ses œuvres. C'était toujours les galeristes qui mettaient une titre, alors ben, un pichet avec une tasse, une bouteille de vin, bon, tout bêtement. C'est très dangereux, les titres, parce que ça confine tout de suite à l'interprétation. Alors, il y avait évidemment les titres des livres qui parfois posaient problème. Certains que lorsque j'ai illustré les poèmes de Éluard Corps Mémorable, c'est un titre magique, c'est un titre admirable, c'est un titre qui dit tout. Mais, par exemple, avec Saint-Jean de Perse, on s'est cassé la tête avec le poète lui-même pour trouver un titre générique qui corresponde à ce livre-là. Car Perse était très humble d'une certaine façon. Moi, j'avais mis son nom sur la maquette en vedette et le mien en petit. Il a inversé la proposition. Il m'a mis moi en valeur et lui, il s'est mis en tout petit. Et trouver ce titre, il aimait un mot, n'est-ce pas ? Amer, pluie, vent, ce sont les titres de ses grands poèmes. Et c'est comme ça qu'il m'a dit « Genèse ». Il me l'a dit au téléphone, il ne me l'a pas écrit, mais enfin, j'ai très peu de lettres, de courriers avec Saint-Jean de Perse. Mais voilà comment ça s'est fait. Et puis, je dois dire que je continue maintenant. Les nus qui sont très connus de moi, les nus zébrés, ben c'est nus zébrés, voilà. C'est un rapport assez curieux. Alors, c'est vrai que lorsque j'ai dû illustrer notamment « Étroits sont les vaisseaux » de Saint-Jean de Perse. Là, c'était plus compliqué, plus compliqué. Je voulais illustrer ce qu'il avait écrit. Or, c'est inimaginable. Et comme c'est riche d'images, c'est presque outrancier de l'illustrer, je dirais. Mais bon, je suis arrivé à faire un accord. Et alors, je lui ai soumis la maquette. Et à ma grande surprise, il a complètement tout chamboulé. Je ne reconnaissais plus mon enfant. Et alors, j'ai pris un arbitre. J'ai pris un arbitre, un peintre, Mario Prasinos, qui avait 20 ans de plus que moi et 20 ans de moins que Saint-Jean de Perse. Donc, il était au milieu. Et alors, on tournait les pages, et il me disait, ben, tu sais, le vieux, il a raison. Et chaque fois, c'était, je crois que le vieux, il a raison. Et il avait fait des accumulations de choses que moi, j'avais dispersées, il avait regroupées, etc. Et il s'est posé un problème, parce que j'avais mis des pages noires face à une composition. Et là, Mario Prasinos m'a dit, tu sais, ton noir, là, c'est trop dur. Il faut l'éclairer. Alors tu vas l'éclairer avec un verre de Saint John Perse. Et voilà comment tout d'un coup, le mot a pris une place, enfin les quelques mots d'un verre ont pris une place très particulière. Voilà, mon cher, ce que je peux vous dire par rapport à la question qui...
Mais encore un petit peu sur la même question, quand vous nous avez montré les images, par exemple, d'herbes
oui.
sur la plage,
oui.
vous nous avez montré plusieurs choses tout à fait étonnantes, dont une horloge.
Ah, oui.
Alors là, quand même, le cadrage de cet objet
oui.
Éphémère et le mot horloge ou... Enfin, c'est quelque chose qui est allé ensemble. C'est-à-dire, c'est une découverte qui...
Oui,
où le mais... Mot traversait le choix, quand même, de...
Mais pas avant. C'est-à-dire que c'est pas quand je l'ai fait, je pensais pas du tout. C'est quand je fais ce genre de photo, je chemine sur la plage pendant des heures, j'enregistre, puis après on choisit, puis après, ben oui. Tout d'un coup, je dis, ah ben, c'est l'horloge du temps. Et puis voilà. C'est comme ça que c'est venu le titre. Mais je suis pas obsédé par ça. Mais il est vrai que les poètes m'ont beaucoup influencé, au premier rang desquels je mettrai d'ailleurs Federico Garcia Lorca, qui est absolument éblouissant pour moi, mais Jean Cocteau, mais évidemment Paul Éluard, que j'ai découvert grâce à Pierre Segers lorsqu'il a dit « il faut que ça illustre les poèmes de Paul », mais... J'ai joué un rôle là très délicat puisque je ne savais pas que Pierre Segers préparait une réédition de Corps mémorable avec des illustrations de Valentine Hugo. Et malheureusement, mes photos ont balayé les dessins de la pauvre Valentine, dont je ne savais pas d'ailleurs qu'elle était morte dans la misère. Et plus tard, après sa mort, j'ai racheté tous ses dessins de Corps mémorable. Donc j'ai les dessins de Valentine Hugo pour Corps mémorable. Pour ne rien vous cacher, j'aurais souhaité racheter le manuscrit de Corps mémorable. Or, le manuscrit de Corps mémorable est détenu par la dédicataire, puisque le poème, si vous vous souvenez, est dédicacé à Jacqueline. Et qui est cette Jacqueline? Je ne le savais pas. Et alors, j'ai demandé un jour à un ami dont vous vous souvenez certainement tous, Pierre Descargues, notre merveilleux de France Culture. Et je lui dis, Pierre, tu ne peux pas me donner un coup de main, là, tu n'as pas une idée, toi, qui est cette Jacqueline? Et il éclate de rire, il me dit, mais en fait, tu te fous de moi, que c'est la femme de mon patron. Et je lui dis, c'est qui ton patron? Ben, c'est Alain Truta, le patron de France Culture. Ah bon? Ben, je lui dis, donne-moi son téléphone, alors. Et donc, j'ai rencontré Alain Truta, qui m'a dit, écoutez, nous avons le manuscrit, mais nous ne le vendrons jamais. Nous le donnerons à la Bibliothèque nationale. Alain Truta, depuis, est mort. Jacqueline Truta est toujours vivante, mais refuse tout contact. Et la dernière fois que je lui ai demandé pour voir le manuscrit, elle m'a dit, je ne sais plus, je crois que je l'ai donné à la Bibliothèque nationale. Voilà.
Pour aller dans le même sens que la dernière question de Pierre-Marc de Biasi, la référence à Hiroshima,
oui.
vous êtes venu au moment de la prise de vue?
Ah ben là, c'est flagrant,
avant,
parce
après...
que quand vous arrivez à White Sands, vous ne pouvez pas oublier qu'il s'est passé ça. Et... Vous savez, White Sands, c'est très curieux. Alors, comme vous savez la grande différence qu'il y a entre l'Amérique et la vieille Europe, et moi en particulier qui viens d'une ville qui est chargée d'histoire, puisque Arles, les fondements d'Arles, c'est 4600 ans avant aujourd'hui. J'ouvre une parenthèse très rapide, mais je vais après ça au Louvre, où on inaugure l'exposition de toutes les sculptures trouvées dans le Rhône depuis 25 ans, de l'époque romaine. Donc je vous conseille tous, à partir de demain, d'aller au Louvre le voir. Et Arles a cette puissance-là. Alors attendez, je me suis égaré.
Question était si cette référence à Hiroshima...
Voilà, oui. Donc quand vous arrivez à White Sands, c'est le monument américain par excellence. C'est-à-dire que c'est divisé en trois parties. Vous avez une première partie très ludique, où vous pouvez venir avec votre chien, votre pique-nique... alors vous garez la voiture à un endroit précis, il n'y a pas beaucoup de visiteurs, mais enfin tout ça est très bien organisé. Vous avez même des espèces de trucs qui permettent de faire un peu d'ombre, parce que là il y a un soleil comme ça, autant vous le dire. Il ne faut pas y aller en été, hein. Je vous déconseille vivement d'aller en été à White Sands et à la vallée de la Mort. Et donc il y a une seconde partie un peu plus sophistiqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'amener le chien. On n'est pas conseillé de faire le pique-nique. C'est plutôt pour les chercheurs et pour les fous comme moi qui veulent un peu s'aventurer. Et puis, il y a une troisième partie rigoureusement interdite au pied de l'homme qui doit être comme c'était au début du monde. Malheureusement, la bombe a éclaté là. Donc, il y a des effluves certainement qui sont restées. Et donc, très vite, j'ai eu ce sentiment d'apporter la vie. Je dois dire qu'en 71, lorsqu'il y a eu dans les forêts autour de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, des incendies ravageurs, nous passions nos vacances là, enfin ma famille passait ses vacances, et le feu s'est déclaré, et ma femme a eu un instinct formidable de partir avec les enfants et les a sauvés. Par contre, non loin de là, la famille de... Vous savez, ce type qui a écrit ce livre-là, sa famille est morte, quoi. Sa femme et ses trois enfants sont morts, là. Tout d'un coup, je me souviens plus de son nom. C'était très risqué. Et quelques semaines plus tard, j'ai demandé à mon modèle traditionnel, Wally, de venir avec moi dans la forêt, de poser nu au milieu des arbres calcinés pour remettre la vie sur ce lieu. Et donc, White Sands, je ne pouvais pas l'oublier, quoi. C'était la même chose. Alors, Death Valley, c'était plus subtil parce que un jour, nous avons été dans une situation qui aurait pu être dramatique. La jeune femme posée un peu loin de moi, je travaillais avec un long foyer, je lui criais de quelle position me prendre, et tout d'un coup, je la vois lever les mains comme ça. Je lui dis, non, mais je ne fais pas les mains comme ça. Elle m'a dit, Lucien, hand up. Et je lui dis, mais on ne tourne pas un film de cow-boy. Look behind you. Et je me retourne et je vois un type avec un revolver. Hand up. Alors j'ai dû faire pareil, mais je lui permettais que j'aille couvrir cette jeune femme. Don't move. Et donc c'était un ranger complètement gâteux qui est venu fouiller les bagages, etc. Et je n'arrêtais pas de lui dire, laissez-moi couvrir cette jeune femme. Don't move. Il est allé près de la fille, qui était entièrement nu et qui tremblait évidemment de tous ses membres, le revolver pointé, fait un tour, elle a dû faire un tour sur elle-même, après quoi il a baissé le revolver, il a dit « Vous êtes vraiment très belle », j'ai dit « Permettez que je couvre cette jeune femme maintenant, oui, oui ». Alors bon, c'était un ranger, et je lui ai dit « Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend là, qu'est-ce que vous faites ?»« Oh, vous ne vous rendez pas compte, je suis là pour vous protéger ».« Vous protéger de quoi ?» Ben, il dit « Mais enfin, vous ne savez pas que c'est là que mentionne le type qui a tué la femme de Polanski ?» Vivez. Il y a 15 jours, j'étais là avec mon père, on a vu la tête d'une femme coupée. Alors bon, la mort est partout, quoi. Oui, la mort est partout et vous devez la combattre et faire vivre la femme pour qu'on ne perde pas espoir. Alors, il n'y a pas de questions.
Si,
oui, il y a une...
Bonjour, je voulais savoir quelle est la place de l'anachronisme dans votre vie. Est-ce qu'il y a beaucoup de traces, beaucoup d'empreintes, et savoir
La place de la...
De quoi ? L'anachronisme, donc la présence de toutes ces traces.
Oui. Mais oui, alors, d'abord, il y a une fascination pour la calligraphie orientale, enfin chinoise et japonaise. Je suis fasciné par ça. Donc, j'ai essayé de retrouver des traces semblables. Et ce qui m'intéresse, en effet, moi, je ne suis pas un reporter. Je ne suis pas comme tous mes collègues de la génération précédente qui ont soit photographié la guerre, soit photographié les banlieues, la rue, Paris, etc. Avec grand talent d'ailleurs, la question n'est pas là. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Ça. Ce qui m'intéressait, c'était en effet quelles étaient les traces laissées par ces individus. Et aussi les traces du temps et de l'histoire. Parce que quand je vous dis bêtement que je suis le plus vieux photographe du monde, je pourrais avoir assisté en effet à la naissance du monde. Quand j'ai fait mon discours à l'Académie, je les ai fait rigoler parce que j'ai dit la photographie, c'est l'art le plus vieux du monde, puisque le Big Bang, c'est le premier flash. Donc la photographie, ça existe depuis la naissance du monde. Et donc je porte aussi témoignage de cette façon. En effet, Vous l'avez vu, dans l'arène, j'aime ces traces laissées, notamment ces ombres, pas même ce contact physique direct du taureau et du taureau. Sur la plage, souvent aussi, j'ai fait des ombres. Mais surtout, c'est en Camargue, c'est sur cette plage où j'ai vu cette trace de tout, et surtout de l'homme qui chemine avec son chien, sa voiture, etc. Ça me fascine parce que tout d'un coup, on ne sait plus comment le dater. Ça peut être universel et éternel. Voilà. C'est peut-être ma réponse, mais elle n'est peut-être pas bonne d'ailleurs. Mais bon, je vous la dis comme je le sens. Merci d'avoir posé la question.
Voilà, tout à l'heure, vous avez cité, je crois que c'était Jean Cocteau, « Ne me demandez pas pourquoi ».
Oui.
C'est cela. Et nous, nous vous demandons comment. Voilà, oui. Déjà par l'intermédiaire de plusieurs questions.
Oui.
Et pour moi, il y a un comment qui est la question du temps de la photographie. Comment saisissez-vous la lumière et combien de temps? Quelle est la relation avec le modèle qui pose pour vous et combien de temps? Et combien de temps pour le taureau dans les arènes?
Oui, alors, vous avez peut-être remarqué, enfin, je ne sais pas si c'est très évident dans la projection, mais je travaille à contre-jour, c'est-à-dire j'ai toujours le soleil en face, moi. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprenaient pas. Mais moi, ça me passionne parce que le soleil, c'est quand même... Alors, je rappelle que je suis né le 14 août, donc je suis un pur lion, et que le soleil est mon complice. Je pense qu'il y a des jeunes lionnes, là, qui sont sûrement nés la même date. Et qui doivent savoir ça. Ce rapport avec le soleil est formidable. Alors, moi, c'est un rapport double, assez complexe, parce que un été en Camargue, en Provence, chez moi, je me cache du soleil. J'aime qu'il soit là, qu'il soit derrière les volets, mis, comme on dit chez nous, en cabane, pour le filtrer. Et je suis heureux de savoir qu'il est là, mais je m'en cache. Pour ne rien... Alors, pour vous dire la vérité des vérités, lorsque j'ai fait les premiers nus dans la mer, j'utilisais donc le Rolleiflex. Le Rolleiflex, je vous rappelle, ce sont des films de 12 prises de vue. Et donc, je mettais un film, la fille était dans l'eau, j'avançais dans l'eau à pieds nus avec mon maillot de bain, j'étais à moitié comme partie couvert, et je faisais les photos. Les 12 photos faites, je revenais sur la plage, je sortais le film, j'en mettais un autre, j'ai fait ça tout l'après-midi. Le soir, coup de soleil sur les pieds, mais à hurler. Et je travaillais à l'usine à l'époque. Donc on est allé chez le pharmacien, mettre des onguents qui étaient à base d'huile de poisson, ça empestait. Et quand je suis arrivé au bureau à l'usine, les filles m'ont dit « Non, mais tu ne crois pas que tu vas rester au milieu, là. Tu retournes chez toi, tu vas te soigner chez toi, ça, tu empestes. » Alors, j'ai un souvenir du soleil vraiment cruel, et donc je m'en garde. Mais je vous répète, il est indispensable. Et vraiment, j'ai toujours fait à contre-jour. Pour la corrida... on m'engueule parfois, on me dit « mais tu n'es pas là où tu devrais être ». Je dis « permettez que le photographe, c'est moi, je sais ce que je veux ». Donc je suis à contre-jour. Et alors les nus à contre-jour, c'est absolument indispensable. C'est ça qui donne tout le relief, qui met en valeur et qui permet parfois de cacher certaines petites imperfections, etc. Ça arrange tout le monde. Voilà.
Combien de temps durent ces séances de...
Alors là, les séances, elles sont, je vais vous dire, pour le nu... Là, il y a une horloge biologique qui est infaillible, c'est 2 heures. C'est-à-dire qu'arrivé à 2 heures moins le quart, je sens déjà que je me répète, que je ne sais plus trop quoi faire. Et à 2 heures, je donne congé à la jeune femme. Il ne faut pas oublier que tout de même avec le nu, il y a là un rapport qui est très profond, enfin, très particulier. C'est une femme nue. Alors que moi, je suis un homme habillé, avec non seulement habillé, mais armé. Cet objectif, c'est une arme, c'est pointe, là, c'est agressif. Et elle est là, nue, à ma disposition, abandonnée. Donc, et en particulier, lorsqu'on travaille, je travaille maintenant beaucoup en intérieur, à New York, le rapport est encore plus étroit, parce qu'il y a un côté, excusez-moi, olfactif, enfin, elle est parfumée, c'est très émouvant. Et Et c'est donc une tension constante parce qu'il faut garder son sang-froid, on n'est pas de bois et il faut avoir une passion pour. Si on ne traduit pas cette passion, c'est un peu. Voilà quoi, c'est le désir. Il faut exprimer ce désir, mais au nom de tous ceux qui vont les voir, c'est le désir de tous qui passe là. C'est pas que le mien. Je veux dire, j'essaie de. Alors, moi, je suis en admiration éperdue pour les filles qui posent, parce que c'est quand même difficile, c'est très pénible. On ne sait jamais trop ce qu'on veut, surtout elle ne comprend pas souvent ce que je veux. Certaines posent des questions, mais peu. La plupart laissent aller les choses. Je ne suis pas très embêtant parce qu'au fond, elles prennent une position où parfois elles s'endorment. Alors, donc, on le sent ravi. Et très bien, ça se passe bien. Mais tout le jeu, c'est de travailler avec le soleil. Par exemple, vous voyez, à New York, j'habite un appartement sur la 51e rue, à l'est, et le soleil est bon, par exemple, en cette saison-là. Il est bon de 10h du matin à 1h de l'après-midi. Et il va faire ce parcours, comme ça. Bon, alors en face, il y a un building de 15 étages qui me le cache. Il y a un moment donné où tout d'un coup, on est dans l'ombre. Bon, alors il faut en tenir compte, faire autre chose, etc. Et bien, le parcours, je sais qu'à un moment donné, la lumière vient de là, puis elle va venir de là. Alors évidemment, si je vais au mois de juin, le soleil est beaucoup plus haut. Là, j'ai le parcours beaucoup plus long et c'est plus tard. Tout ça, c'est un jeu subtil et qu'il faut connaître. J'ai fini par dresser mon inventaire de la qualité solaire. Mm-hmm. Voilà.
Qui veut prendre la parole ? Oui, juste un prolongement de ce que vous venez de dire. Avec ces jeunes femmes, est-ce que vous êtes toujours aux commandes ou est-ce que ce sont elles aussi qui proposent ?
Assez rarement. D'abord, je ne prends pas des professionnels. Ce ne sont pas des filles d'agence, etc., qui se louent à l'heure et tout. Ce sont, alors au début c'était les petites copines, puis après ça a été les copines de mes filles, et puis plus tard ça a été les copines des élèves qui étaient dans les workshops, enfin, donc ça évolue comme ça, et j'ai eu beaucoup dans les ateliers notamment, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de nu dans les ateliers, car moi je photographie en même temps que mes étudiants, je me jette à l'eau avec eux. Et je leur fais voir que je m'y mets. Alors, parce que souvent, ils n'ont pas d'imagination. Et il n'y a rien de plus difficile que le nu, hein, je vous dis tout de suite. Et quand les élèves viennent pour un stage de nu, ils sont terrorisés parce que certains n'ont jamais vu une fille nue. Bon, il faut essayer de leur expliquer que c'est quand même pas un monstre, ils ne vont pas les manger. Et il faut montrer aussi des subtilités, la morphologie, la position des jambes en particulier, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une tête, des bras, un ventre, et des genoux et des pieds qu'il faut tout montrer. Mais il faut savoir en couper. Et il ne faut pas faire une amputation. Il faut que ça joue bien. Alors bon, je viens d'une ville, je vous rappelle, où il y a des monuments, des statues gréco-romaines qui sont arrivées mutilées jusqu'à nous. Donc moi, j'ai vu à Arles beaucoup de ces danseuses du théâtre antique qui étaient mutilées. Et j'ai passé un temps de mon adolescence avec un mouchoir, aller mesurer la distance d'un sein à un autre, d'un sein avec le nombril, du nombril au sexe, etc., pour voir si la proportion idéale existait. Et bien souvent, avec certaines filles, je leur dis, lève les bras, je prends le mouchoir, je vérifie certains trucs, c'est toujours intéressant. C'est fascinant, quoi. La femme, c'est un puits d'inspiration. Et c'est aussi, je le répète, une angoisse folle, parce que quand on est devant une fille, moi j'essaie de tout oublier, tout ce que j'ai appris. Je la découvre, j'essaie de me mettre dans la situation d'Adam, qui découvre tout d'un coup dans son territoire cette personne qui ne lui ressemble pas tout à fait. Et quelle a été sa surprise, qu'est-ce qu'il a pu penser, quoi. Et alors moi, je le fais avec un appareil photo. Et j'essaie de comprendre. Et plus on essaie de comprendre, et moins on comprend, pour vous avouer la vérité.
Nous qui sommes chercheurs, nous connaissons cela.
Oui, c'est bien, ça me rassure.
Bon, j'ai oublié de vous dire que nous devons terminer plus tôt la séance. Donc il nous reste 5-6 minutes, c'est tout. Donc profitez-en pour poser des questions. Hein.
Oui.
J'ai une question. Très souvent dans les nuits, on ne voit pas le visage.
Ah oui, oui. Alors le problème du visage.
Ça m'a frappé quand j'ai vu un visage. Du coup, on remarque que dans les autres.
Oui, oui, oui. Alors d'abord, il faut savoir que. À l'époque où j'ai commencé à faire des nus, la majorité était à 21 ans. Que, naturellement, faire des nus sur la plage était une agression. C'était strictement interdit. Il y avait même une brigade de répression du naturisme. Et il faut le prononcer en roulant les airs, comme le faisaient les gendarmes de l'époque. Et donc on faisait très attention. J'étais protégé par le sous-préfet, qui m'avait dit, surtout si vous êtes surpris par la brigade de répression du naturisme, appelez-moi avant 8 heures du soir, avant que ce soit inscrit sur le cahier. Bon, je suis arrivé à déjouer les intentions de ces messieurs, et je suis passé à côté. Mais c'est vrai que d'une part, les filles n'avaient pas trop envie qu'on les reconnaisse, et d'autre part, moi, je me suis vite aperçu que ça ne marchait pas. Car une fille que vous mettez dans la mer, à la fureur des vagues, son corps, lui, est ravi. Les seins en particulier, c'est les plus heureux du monde, parce que là, vraiment, alors, ils sont choyés. Mais alors, le visage, s'il y a un peu de rimmel qui est resté, ça se met à dégouliner. Les cheveux deviennent des baguettes de tambour. Il n'y a plus aucun rapport. Donc, je ne vois pas pourquoi le mettre dans la composition. Et de notre côté, il y a une signification. Alors, c'est pas le portrait d'Hélène ou de Monique que je veux faire, c'est la femme. Donc je veux pas qu'on la reconnaisse sur un plan particulier, de l'identifier. Et aussi parce que parfois, certaines coiffures, certains maquillages font que ça la daterait, si vous voulez. J'ai essayé de faire le nu le plus universel, qui soit de toujours, et qui, j'espère, perdurera. Voilà mon sentiment. Alors, toutefois, lorsque je suis en ville, à l'intérieur, parce qu'il y a trois étapes, hein. Il y a le nu, la naissance d'Aphrodite sur la plage, il y a Ève dans le jardin d'Adam dans les forêts, et puis il y a le couple qui arrive dans la maison de l'architecte. Et là, enfin le couple, j'ai fait un peu des nus d'hommes avec les femmes, mais très peu, hein. J'ai surtout fait la femme. Et là, il n'y a pas tellement de raisons de couper la tête. Il n'y a plus cette... Surtout aujourd'hui, la majorité est à 18 ans, sont complètement... Il n'y a plus de... Vous pouvez photographier le nu où vous voulez, et vous ne serez pas mis en prison. Donc, je peux faire des visages avec le nu. Et j'ai été frappé, je reviens de Londres où j'étais la semaine dernière, j'ai été frappé par l'exposition de Lucien Freud, qui se tient au Portrait Museum, au Portrait Gallery, et on dit portrait. Et en fait, le portrait tient une infime place dans l'énorme composition où on voit de ces fameux nus caractéristiques de Lucien Freud. En effet, le portrait, là, a une raison d'être et il peut jouer son rôle. Alors, ça dépend, là aussi, de certains modèles. Je vais à New York dans quelques jours et... je sais déjà qu'il y a une jeune femme qui est d'accord pour poser, dont j'ai vu le visage, et je spécule déjà, je sais ce que je vais faire. Alors, s'ajoute à ça, évidemment, un aspect qui n'a pas été traité ici, mais ça sera l'objet d'une autre rencontre.
Bien sûr.
Ce sont les surimpressions, les surimpressions en couleur. Dans les surimpressions en couleur, où j'utilise beaucoup la femme, il arrive alors là que le portrait joue un rôle prépondérant. Parce qu'elle va être en compétition soit avec Marie-Madeleine, soit avec le Christ, soit avec des saints, puisque je fais des surimpressions de femmes nues avec des tableaux depuis le 15e jusqu'au 18e siècle que je vais photographier dans les musées. Mais je vous répète, c'est une autre histoire. Là, on irait trop loin. Voilà. Oui.
Une question qui concerne la composition. Vous placez très souvent les corps féminins comment vous imaginez au départ ce jeu qu'il y a entre le sable et puis
Eh bien, c'est ça tout le problème, madame. Lorsque je fais un cours, lorsque je faisais les cours de photo de nu, je remarquais que ce problème était crucial. Car les jeunes gens qui vous photographiaient ne faisaient absolument pas attention de ce qui se passait autour. Or, je leur disais, nous sommes là, vous avez une femme blonde, brune, etc., grande, petite, bon, et elle dialogue avec ce qui l'entoure. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il faut la mettre en situation. Il faut établir un dialogue ou une opposition ou une bagarre. Il faut décider ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. Parce que alors, notamment quand c'est en plein air avec le soleil, c'est une double bagarre. C'est le soleil et puis la vague. La vague, elle fait ce qu'elle veut. Donc, effectivement, je fais beaucoup de photos quand je les fais sur la plage parce que je ne sais pas ce que la vague va faire. Hein. C'est comme le chasseur, hein, il faut appuyer juste avant pour être sûr qu'il se passera quelque chose. Voilà, ça s'organise comme ça.
Mais est-ce que vous pensez sable
une minute
de départ ou parce qu'il y a une espèce de fusion des matières, mais
oui,
est-ce qu'au départ,
oui,
est-ce que c'est le sable qui est
Le sable est le prolongement et le support et il porte des espèces d'échos. Alors, j'ai oublié aussi de parler de la musique. Je suis violoniste à la base. Donc, si vous voulez, la musique a joué un rôle énorme dans ma vie, et notamment les 6 sonates pour violon seul de Jean-Sébastien Bach. Et au début de ma carrière, tout ce que j'ai fait au début, je le faisais en chantant en moi, certaines, notamment la fameuse Chaconne, qui est le chef-d'œuvre absolu de la musique violonistique, d'écriture violonistique, et ça m'a beaucoup aidé. Et parfois, j'entends une musique dans cette émanation des sables irisés, de soleil, de ci, de ça, des parcours qu'ils prennent. C'est très musical, tout ça. Voilà.
Toute dernière question, si on n'a pas du tout parlé de technique, mais vous avez une carrière qui a traversé plusieurs âges de la photographie, et depuis donc un certain nombre d'années, j'imagine que vous avez utilisé des matériels de photos numériques et peut-être derrière la prise de vue numérique, des matériels de Photoshop ou de retraitement de l'image photographique. Comment vous situez-vous dans votre travail par rapport à cette évolution ?
Je suis navré de vous décevoir, mais je suis un fidèle à l'argentique.
L'argentique pure, ça.
Voilà. Je n'ai rien contre le numérique, c'est leur génération, et ils vont l'utiliser. Et j'ai toujours en mémoire ce qu'a dit Ansel Adams lorsqu'il a négocié ses archives avec le centre de Tucson, en Arizona, The Center for Creative Photography. Il a cédé ses archives, il a dit: j'aimerais revenir dans 50 ans pour voir ce que les jeunes générations feront avec les nouvelles technologies de mes négatifs. Donc, ça veut dire que l'évolution, ben, elle est constante et c'est très bien. Mais moi, j'ai atteint un âge où je n'ai pas encore tout compris avec l'argentique. Alors, j'essaie de tout comprendre et on ne peut pas tout mettre dans l'ordinateur, quoi. Alors, après, effectivement, et quand je dis la surimpression, ce n'est pas du Photoshop, c'est fait dans la caméra. Donc voilà, j'ai essayé de sublimer cette technique jusqu'à son point absolu, quoi, où on croit que c'est du Photoshop et ça n'est pas. Voilà.
Je reprends juste la parole déjà pour vous remercier et pour dire juste en 2 secondes aux étudiants qui sont là que la semaine prochaine, aux étudiants et non étudiants, c'est moi-même qui interviendrai. Je vous parlerai aussi de Genèse. Et si les étudiants ont des questions à poser sur l'évaluation, nous verrons tout ça la semaine prochaine, donc mercredi prochain à 17h, au même endroit. Et merci infiniment, Monsieur Claire.
Je vous remercie. Madame, comment je sors le... Voilà. Bon, mon cher, allez. Ça vous a convenu, j'ai un peu dérougé. Très bien, très bien. Parce qu'en fait, je ne l'avais jamais fait, ça.
Oui,
c'est
vraiment
oui, oui. Alors, jeudi prochain, je dois le faire à l'école nationale supérieure. Bah, voilà, je fais une intervention par an.
Bon, j'espère que vous avez été...
Ah bon, c'est très bien. Voilà. Ça, c'est le monde disque. Alors.
Ça, parfait. Merci beaucoup.
Très bien. Bon.
Vous nous autoriserez à mettre en ligne cette conférence
oui,
sur le site de l'école.
Oui, pour l'usage de l'école. Voilà.